Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario!
Ouais, je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello les légendes, bienvenue pour notre 74e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On reçoit un ancien numéro 1 belge aujourd'hui au micro, surnommé Shark sur le circuit. Il s'agit de Steve Darcis. On parle de sa relation avec ses parents, qui se relayaient pour l'emmener en tournoi étant jeune. Shark a loupé la place de numéro 1 mondial junior de peu, mais a optimisé tous les segments de son jeu pour ensuite monter top 40 chez les seniors. On parle d'un gars qui a battu Rafa à Wim et nous fait vivre cette rencontre épique en détail. On a l'impression d'être sur le court, avec lui et dans sa tête. Vous allez comprendre un truc important dans cet épisode, un schéma que j'ai retrouvé dans plusieurs interviews. Steve, malgré son niveau chez les jeunes, était prêt à tout envoyer chier dans la catégorie senior, avant de s'accrocher et d'exploser au moment où il s'y attendait le moins. Notre invité nous confie ce qu'il a appris au contact de ses compatriotes, les frères Rokus, Xavier Malise, David Goffin ou encore Christophe Vliegen. J'ai décidé de sortir l'interview avec Steve cette semaine, puisqu'on a lancé un nouveau format sur YouTube qui s'appelle « Dans les yeux 2 ». Les deux premiers épisodes sont sur Hugo Grenier et Benoît Paire lors des championnats de France par équipe d'hiver. On a suivi l'équipe dans les vestiaires ainsi que sur le court et Steve est le sujet de notre troisième épisode dimanche 23 janvier. Vous allez kiffer et si c'est pas encore fait, foncez découvrir les deux premiers épisodes sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast. Cette semaine, on lance la 10e masterclass avec le retour de notre préparateur physique préféré Ralph Bogossian qui coach entre autres Benjamin Bonzi aux portes du top 50 mondial. T'as accès à un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. C'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire spécifique au tennis. En plus, tu peux l'emmener partout, c'est une véritable salle de muscu portative et express. Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono de mon salon ou de ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et de résultats obtenus. Le TRX permet un travail de poids du corps, qui te permet d'éviter les faux mouvements et de te blesser en bossant toutes les chaînes de muscles du corps en les gainant. C'est juste incroyable, Paul Quétin nous l'avait dit lors de son épisode. Pas besoin de gérer les apprentis sorciers, adieu les blessures pour un maximum d'efficacité, vraiment, c'est tout bénef. Au moins 2 fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs. C'est rien et ça marche, ça fait plus d'un an que je suis dessus et je me sens beaucoup plus tonique. Il peut être utilisé assez jeune, dès l'âge de 13 ans, c'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeune pouce pour lui permettre de claquer des bonnes premières si vous êtes parent de joueur par exemple. Et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, ça vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servi sur un plateau. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est donc à la 10e et les 9 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en écrivant un mail à max@tennislegende.fr. À noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie. Avec une simple demande par mail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser. Et enfin, vous envolez au classement les légendes. Allez, c'est parti pour notre 74e épisode avec le très cool ex-joueur belge Steve Darcis. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Ah, je vois la Coupe Davis derrière, putain, c'est bon ça.
Ouais, c'est la petite, hein, c'est la petite.
Alors, j'ai une présentation sur toi.
Ouais.
Et puis après, on enchaîne avec les questions, ça va ?
Parfait.
Allez, c'est parti. Alors, Steve, tu es né le 13 mars 84 à Liège. S'il y a des informations qui ne sont pas bonnes, t'hésites pas, hein, tu me dis. Mm-hmm. Tu mesures 1m75 pour 78 kilos.
Ton papa... 1m78
ah. Ouais.
Et bon. 75 kilos, mais c'est bon.
Ton papa est propriétaire d'un club de tennis qui a déjà accueilli la Fed Cup. Il coach, par ailleurs, il est coach de tennis. Ta maman est prof de sport, ce qui a sûrement...
Il a revendu son club, mon père, il y a 6-7 ans, là.
D'accord. Et c'était dans quelle ville ?
À Strimont, à côté de Liège.
Ok. Ta maman donc était prof de sport, ce qui a sûrement facilité tes débuts dans le tennis à l'âge de 5 ans. Mm-hmm. T'as une sœur. Sampras était ton idole de jeunesse. T'admirais aussi Xavier Malisse, Olly Rocus, Christophe Vliegen. T'es joueur de tennis pro depuis 2003. Cette année-là, t'as joué Murray en finale d'un futur à Glasgow. Tu pourras peut-être nous raconter tout à l'heure. Ouais. Le gazon et le dur sont tes surfaces préférées, même si tu as gagné ton premier titre sur terre à Amersfoot en 2007. Cette semaine-là, je crois avoir trouvé que c'était d'ailleurs tes premiers matchs gagnés sur le circuit principal. C'était bien ça ?
Ouais, quasiment mes premiers. Peut-être le deuxième match gagné sur le circuit, ça devait être là-bas.
Ouais, c'est incroyable parce que tu t'envoies le titre. Cette semaine-là, tu sors Marc Jiquel, 39e, Gilles Simon, 51e. Igor Andreev, Yuzny 14e et un Autrichien que je ne connaissais pas, Eschauer en finale.
Qui avait battu Moya, qui avait battu Almagro, qui avait battu…
Ouais, c'était pas un peintre, comme on dit.
Non, mais bon, le joueur final, c'était du cul, mais non, c'était pas un peintre.
Tu fais un bond de la 300e à la 146e place mondiale. Tu es le 5e Belge à gagner un tournoi ATP depuis le début de l'Air Open. À ce moment-là, tu étais en feu. Parce que la semaine d'après à Sopot, tu sors des qualifs, tu colles 2-0 à Gaudio au premier tour. Tu bats Massu 6-4-3e et perds seulement contre Robredo 7-5 au 3e qui était numéro 7 mondial.
Ah, mais non, à 7-3-1, à 7-2-0, je crois.
Ah merde. Ah ouais.
Il n'y avait pas de match et après je me suis emballé. J'ai surjoué et après j'ai fait le pont.
Ah ouais, c'est dommage. Cette année-là est assez incroyable pour toi parce que tu es devenu le premier joueur de l'histoire à gagner un futur, un challenger. Et un tournoi du circuit principal la même année. Tu es resté le seul à l'avoir fait jusqu'à Benoît Paire en 2015. Tu as aussi remporté Memphis en 2008 sur dur intérieur contre Söderling en finale. Pas mal. Cette semaine-là, tu sors Spadea, Melzer, Baker et Bjorkman et tu deviens numéro 1 belge. Tu es aussi en 2008 tableau dans les 4 tournois du Grand Chelem plus les JO de Pékin. Belle année. Tes coups forts sont le service et le coup droit. Tu as été 38e joueur mondial en mai 2017, après avoir gagné ton 10e titre en Challenger à Bordeaux. Tu avais 33 ans et tu as été le 3e joueur le plus âgé à intégrer le top 40 après Pozzi en 2001 et Lorenzi en 2016. La plus grosse victoire de ta carrière reste contre Rafa Nadal, qui était numéro 5 à ce moment-là au premier tour de Wimbledon en 2013. Tu es le premier joueur à éliminer Nadal lors d'un premier tournoi de Grand Chelem. Après ce match-là, Rafa a dit que tu étais un joueur très complet. Sympa.
Ouais.
Tu fais 3e tour à Roland après être sorti des qualifs en 2011. Même prouesse au Master 1000 de Miami en 2015. Tu as 2 surnoms. Shark. Pourquoi Shark ?
Parce que j'ai un tatouage sur l'épaule droite en forme de requin.
Ouais.
Et donc depuis, tout le monde m'appelle Shark.
Ok. Et Mister Coupe Davis ? T'as envoyé ton pays en finale en 2015 après avoir gagné le 5e match décisif contre Dale Bonis en 4-7. Même chose contre l'Australien Thompson en 2017. T'as pas été épargné des blessures avec une première opération à l'épaule droite en 2013 qui t'a fait louper 8 mois de circuit, puis 2 opérations au poignet droit à la fin de la saison 2015. Et t'as dû faire l'impasse sur l'intégralité de la saison 2018 à cause d'une blessure au coude. En bon patriote, t'es fervent supporter de l'Anderlecht Football Club. Tu kiffes la pêche, t'as 2 filles, Camille et Anna. Est-ce que j'ai oublié des trucs, Mr. Steve ?
Non, c'est bien juste. C'est bien juste.
C'est complet, merci, au revoir, à la prochaine. Est-ce que tu peux nous dire comment t'as commencé le tennis ? Est-ce que t'as ressenti au départ ?
Ben, mon père était prof de tennis, donc j'ai commencé un petit peu avec lui à la fin de ses cours où je jouais 2-3 minutes. Il faisait des tournois nationaux, donc des... comme des CNGT et tout ça. Et donc, moi, j'étais tout le temps dans les clubs avec ma petite raquette. Je jouais au mur et tout ça. Donc, j'étais vraiment baigné dans le tennis. Puis, il a acheté un club de tennis. Donc, j'étais vraiment tout le temps dedans. Ma mère était prof d'éducation physique. Donc, forcément, ça a aidé aussi un petit peu. Et jusque l'âge de 11 ans, j'ai fait du football et du tennis en même temps. Jusqu'au moment où là j'ai été sélectionné à la fédération pour rentrer comme à l'INSEP, donc dans le centre d'entraînement en internat.
Ouais.
Et j'ai dû choisir entre le tennis et le foot et voilà, j'ai choisi le tennis. Pourquoi, je ne sais pas, mais après coup, voilà, j'ai quand même été assez content de l'avoir fait.
Est-ce que ça a créé une relation particulière avec ton père du fait qu'il prenne du temps pour t'emmener sur les tournois au départ?
Non, il m'a pas vraiment emmené dans les tournois. C'était surtout ma mère qui faisait tous les voyages, enfin pas tous les voyages, mais tous les trajets dans les tournois belges, pour les entraînements. Lui travaillait, donc ma mère étant prof à l'école, ben elle avait fini peut-être un peu plus tôt et donc elle avait plus de facilité de m'amener à gauche, à droite. Mais voilà, c'est mon père qui m'a un peu fait commencer et puis ma mère qui a suivi en m'emmenant partout.
Et ils ont été complémentaires, quoi.
Ouais.
Les classements belges sont très différents des classements français chez les, enfin, le système de classement, mais j'imagine que ta progression elle a été assez fulgurante, assez exponentielle. Est-ce que tu peux nous situer un peu comment, quelles ont été les évolutions, les étapes?
Je connais plus exactement le classement que j'ai eu, mais elle a été vraiment assez, pas lente, mais pas méga rapide non plus, donc elle a été vraiment tranquille. J'ai continué de progresser. En moins de 12, j'étais en Belgique le meilleur. Ouais. Mais à l'étranger, j'étais vraiment pas bon. Je gagnais pas de match. Moins de 14, pareil. J'ai commencé à gagner des matchs internationaux à 16 ans, où j'ai gagné mon premier tournoi en battant Thomas Berdych en finale, mais qui était un an de moins que moi. En junior, j'ai terminé top 10. En ayant vraiment raté le coche à Wimbledon ou en demi-finale, je mène 6-4-3-1. Et si je gagne le tournoi, je sais que je peux être numéro 1 mondial. Donc voilà, j'ai vraiment raté le coche.
Contre qui tu perds à Wim?
Je perds contre Todd Reed, un Australien qui a été l'année d'après, il était top 100. Et puis il est décédé, je pense, d'une overdose ou un truc comme ça.
Ah ouais?
Donc ouais, c'était un fameux joueur. Malheureusement, il n'est plus là.
Et puis, pendant qu'il était sur le circuit, il se droguait?
Je sais pas, je crois après. En tout cas, il a été dans le top 100, puis il a été blessé, il a arrêté. Et à mon avis, ça a été compliqué, quoi. Mais je ne connais pas exactement l'histoire de Todd Reed, malheureusement. Il faudra que tu te renseignes, mais je sais qu'il n'est plus là, en tout cas. Donc voilà. Mais je suis pas sûr qu'il soit overdose, mais il me semble que c'était pas très net. Mais donc voilà. Et puis après, j'ai continué mon ascension avec les futurs, les satellites. Et j'ai eu pas mal de petites blessures qui m'ont un peu freiné. Et puis au final, je suis rentré dans le top 100 en 2007. Quoi.
Déjà, chez les juniors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir et nous sortir une ou deux anecdotes sympas avec des joueurs de l'époque?
Je dirais que ça restera peut-être quand même ma demi-finale à Wimbledon. Là j'ai vraiment raté le coche où quand tu mènes 6-4-3 en demi-finale, tu te dis allez ça y est, en route pour la finale, et c'était pour jouer Lamine Wahab en finale, je pense, où j'aurais eu vraiment toutes mes chances et la chance d'être numéro 1 si je gagnais, mais ça restera quand même un super bon souvenir. Et deux trois anecdotes, j'en ai une ou deux marrantes. C'est que en double à Wimbledon, je joue avec Thomas Berdych. Ouais. On joue les numéros 1 mondiaux, les Roumains Teco et Mergea. Et on arrive à 7 partout et puis la nuit tombe et donc le match est arrêté. Et le soir, il vient me voir, il me dit « Écoute, j'ai perdu en simple, le double, voilà, on est en quart, mais je rentre chez moi, donc on ne jouera pas le troisième set demain. » Donc le mec s'est barré, il est rentré chez lui. Donc abandon en quart de finale à 7 partout.
Fair play.
Et l'autre, c'était à l'US Open. Je joue en double avec Ross Hutchins, qui travaille maintenant pour l'ATP. Et on bat les numéros 1 mondiaux en quart de finale. On se retrouve en demi, avec vraiment des grandes chances. On jouait très bien tous les deux. Et le matin de la demi-finale, il m'appelle, il me dit « Écoute, ça va pas, je suis malade, je vais à l'hôpital. » Et donc, crise d'appendicite, opéré d'urgence, demi-finale à la poubelle aussi. C'est des anecdotes que je n'oublie pas et qui sont assez, assez marrantes, mais bon, voilà.
Et Berdych, vous aviez joué en double parce que vous étiez pote?
Pote, non, mais c'était un bon joueur. Il savait que moi, je jouais bien aussi. On s'était joué une ou deux fois en simple et... on se connaissait bien, donc on avait l'impression qu'on pouvait faire un bon résultat tous les deux, et je pense que c'était le cas. Et malheureusement, on n'a pas été au bout.
Et clairement, finir l'année numéro 1 mondial junior, ça aurait changé quoi à ta carrière? Est-ce que c'est pour le prestige? Est-ce que c'est pour négocier des contrats? C'est quoi l'intérêt?
Bah, je pense que c'est un peu tout. Hein. Je pense que quand tu es numéro 1 mondial, tu as forcément des contrats qui sont autres que si tu es 10e ou 7e. Peut-être une ou deux wildcards à gauche, à droite. Peut-être, voilà, je pense que ça peut peut-être te donner un petit coup de pouce, mais ça ne va pas non plus te sauver la vie. Hein.
Ouais. Ton premier point à l'ATP, tu t'en souviens? Tu peux nous le raconter?
Mon premier point à l'ATP, c'était au tournoi de plaisir. C'était en fin d'année 2002. J'avais été faire les qualifs avec mon entraîneur de l'époque, c'était Yanis Demeroutis. Ouais. Et donc, je sors des qualifs en battant vraiment des bons joueurs. Et je joue, au premier tour, je joue Julien Benneteau, qui était... première ou deuxième tête de série, il était 220e ou 230e. Et voilà, je sors un match incroyable, je gagne. Et donc, je bats un mec, voilà, comme Bennett, qui était 220, pour prendre mon premier poids. Donc, c'est assez, assez rigolo, quoi.
Tu te souviens le score?
Non, je me rappelle pas. Je sais qu'après, j'ai battu un Brésilien, Igor Gaudi, et que j'ai abandonné contre Tsonga en quart de finale parce que je me blesse. Mais le score, non. Je pense que c'est peut-être 4-4 ou un truc comme ça. Mais...
Et le match contre Murray à Glasgow en futur, tu peux nous raconter?
Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. Mets-nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcasts ou Spotify. Et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Et si tu veux encore plus progresser dans ton jeu et physiquement, surtout cette semaine, tu as accès à notre 10e masterclass. C'est un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. On te livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre. C'est servi sur un plateau, ce sont des exercices simples avec le poids du corps et une posture parfaite pour tenir les blessures éloignées. Ce nouveau cours, comme tous les autres d'ailleurs, est garanti satisfait ou remboursé à vie et il est en lien dans la description.
Ouais, là, je me rappelle, j'ai perdu 6-4 au 3e. Je suis plus ou moins sûr. Je savais, voilà, c'était un très très bon joueur. Moi, j'étais un joueur correct. Il était beaucoup plus jeune que moi. Hein. Je crois qu'il a 3 ans de moins. Je sais que sa mère était dans la tribune et qu'elle était insupportable, quoi. Donc, moi, j'étais un peu scandaleux aussi quand j'étais plus jeune. Donc, je pense que j'avais dû l'insulter quelques fois parce qu'elle applaudissait toutes mes fautes et que je devenais cinglé. Mais voilà, on savait qu'il allait être bon, peut-être pas aussi bon que ce qu'il a été, mais en tout cas, on voyait bien qu'il avait un gros potentiel.
La Fédé belge, enfin en Belgique, il y a une particularité, c'est qu'il y a deux Fédés, hein, c'est ça? Une Wallonne et une Flamande.
Oui.
Toi, tu fais partie de la Wallonne, du coup, c'est ça?
Exact.
Ouais.
Les francophones, elles se trouvent à Mons, et du côté néerlandophone, elles se trouvent à côté d'Anvers.
Est-ce que tu mettais une pression particulière du fait que tu avais été bon junior et que tu étais peut-être un peu attendu auprès de ta fédé? Comment tu vivais ton démarrage, tes débuts sur le circuit pro?
Non, franchement, sans trop de pression, je veux dire, c'est à la suite logique. Voilà, tu as été pas mauvais en junior, tu commences l'ATP, tu prends tout de suite tes premiers points, donc c'est plutôt positif. Après, voilà, la montée, elle n'a pas été fulgurante, elle n'a pas été ultra rapide. Comme je dis, je suis assez vite monté. Voilà, en 2005, j'étais 150e. Je venais de faire 2 finales de Challenger. J'ai commencé vraiment à passer un cap. Et là, boum, j'ai été de nouveau arrêté par une blessure qui m'a tenu à l'écart six mois des terrains pour mon genou. Et après, faut recommencer un petit peu avec un pas en arrière. Mais par rapport à ma fédé, par rapport à non, j'ai toujours été super bien soutenu, super bien suivi. Et j'ai pas ressenti vraiment de pression, non.
Le moment où tu sens que t'exploses, c'est lequel? Enfin, c'est à quel moment où tu sens que t'es en train de franchir un palier pour t'insérer un peu dans le haut niveau, le top 100, et puis souffler un petit peu, quoi, respirer davantage?
C'est marrant parce qu'en 2007, juste avant que je gagne à Amersfoort, je sortais d'une longue blessure. Mais je jouais vraiment très bien à la reprise. Je jouais très très bien. Je faisais des challengers, je me qualifiais. J'ai eu 2 balles de match contre Frédérico Gilles qui était quasiment dans les 100. La semaine d'après, j'ai balle de match contre Robinaz qui était dans les 100. Je perds aussi. Et la semaine d'après, c'était les qualifs d'Amersfoort. Et je me rappellerai toute ma vie, je dis à mon entraîneur, écoute, j'en ai ras-le-bol, j'y arriverai pas, je m'en sors pas, je gagne. Voilà, dès que je joue à bon joueur, je perds alors que j'ai plein de cases, alors que je jouais vraiment très bien. Enfin, sans être prétentieux, mais à ce moment-là, je jouais bien. Et puis, il me dit, allez, voilà, il faut qu'on y aille. On est à côté, on est en Hollande, on va y aller. Et au premier tour des qualifs, je joue mon match, mais à moitié en balançant parce que j'ai pas le moral, parce que je suis pas bien. Et je m'en sors, je gagne mon match dur. Enfin, 7-6, mais vraiment très dur avec un peu de réussite. Et à partir de là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai joué Dodig au deuxième tour des qualifs. J'ai fait un super match. Puis je me qualifie contre la première tête. C'était Guzman en jouant super bien. Et puis là, voilà, tout s'est mis en place. J'avais l'impression que je pouvais pas rater une balle. Que j'étais sur un nuage et ça a continué toute la semaine. Et c'est vrai qu'à la fin de cette semaine-là, je me suis dit, ben voilà, là, j'ai quand même fait quelque chose de grand. Et là, je me suis dit, allez, je pense que là, t'as vraiment la possibilité d'aller toucher ce top 100, quoi.
C'était à quel tournoi, excuse-moi, j'ai pas noté.
Le tournoi de Amersfoort, le premier ATP que j'ai gagné.
Ah ouais, ok. Yes, donc là, t'as le déclic, quoi. Et ton coup le plus naturel, tu dirais que c'est quoi?
Bah, c'est le slice, hein. Je pense que le slice de revers, je crois que voilà, ça restera à mon avis ma plus grosse arme, parce que voilà, je crois que j'en ai fait chier beaucoup avec ça et que ça m'a quand même aidé à gagner pas mal de matchs.
Tu sens quoi? Tu sens que tu fais péter les plombs au mec avec ton slice, parce qu'après quoi, tu te décales en coup droit, ou c'est quoi ta tactique de jeu?
Ouais, moi je variais beaucoup, donc j'avais vraiment pas un grand revers, donc mon revers frappé était pas terrible, donc j'essayais de compenser avec mon slice, avec beaucoup de variations, avec des montées à contre-temps, et voilà, essayer de frapper fort un coup droit quand je pouvais. Mais c'est sûr que les slices, il y a beaucoup de grands joueurs, être solide, voilà, tu sais que pour faire un point, il fallait vraiment... Fallait vraiment travailler, et je pense que ça a fait péter les plombs à pas mal de mecs qui probablement se disaient, le mec sait pas faire un revers, il est complètement nul, mais qu'au final, il se cassait les dents dessus quand même.
Ta manière à toi d'en faire plus que les autres à l'entraînement, c'est laquelle?
J'en ai jamais vraiment fait plus que ce qu'on me demandait, mais par contre, j'ai toujours fait les choses à fond. J'ai toujours été pro, je me suis toujours battu comme un dingue, surtout après les longues blessures où j'ai dû revenir de loin. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs physiques incroyables qui ont toujours été derrière, qui m'ont toujours poussé. Donc, honnêtement, j'ai toujours fait les choses à fond. Je me suis toujours battu. Quand on me demandait de faire quelque chose, je le faisais. Je ne trichais pas. Et ça, je pense que c'est quand même une qualité, quoi.
Ton rêve en tant que joueur, ton rêve un peu secret quand tu étais jeune joueur, c'était quoi?
Bah, je crois que quand tu commences le tennis, c'est pour faire des grands chelems, pour faire la Coupe Davis. Voilà, quand tu vois la Coupe Davis, tu te dis, bah, mon rêve, ce serait de la gagner, ce serait de gagner un grand chelem. Voilà, gagner un grand chelem, forcément, j'avais pas le niveau, faut être honnête. Gagner la Coupe Davis, je pense sincèrement que les deux fois, si j'avais pu être à 100%, en tout cas, contre l'Angleterre, je pense qu'on aurait pu la gagner. Mais malheureusement, les deux fois, j'étais pas du tout à 100%, loin de là. Et on est passé deux fois à côté, donc c'était un peu dur.
Ton tournoi préféré sur le circuit, c'est lequel?
Wimbledon. Tournoi voilà, où la magie opère à chaque fois, où voilà, c'est classe, c'est magique, et voilà, c'est celui que je sortirai du lot.
Tant qu'on est à Wimbledon, est-ce que tu peux nous parler de ce match où tu ne sors pas au premier tour?
Ah oui, quand j'ai vu le tableau, j'étais... J'étais dans la maison où je dormais, je me suis dit, ah, fais chier, ça y est, on va rentrer chez moi au premier tour. Donc voilà, tu l'encaisses un peu. Et puis voilà, une fois sur le terrain, je dis, allez, on va essayer de tenir le plus longtemps possible, de faire ce qu'on peut. Et en fait, contre Nadal, ce qui est bizarre, c'est que tu sais pas du tout t'échauffer, en fait. Donc le mec, il t'envoie des ogives dès la première balle, 2 mètres dehors, 2 mètres dedans, coup gagnant. Donc en fait, tu commences ton match, tu as l'impression que tu n'as pas tapé une balle et tu te dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et puis voilà, le terrain, c'était le terrain numéro 1, c'était blindé, tu joues Nadal, tu sais qu'il n'a jamais perdu au premier tour de Grand Chelem. Donc voilà, je n'étais pas en grande confiance forcément. Et le début de match m'a bien aidé parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de beaux points. J'arrivais à garder mon service. Donc c'était forcément la clé. Et puis, voilà, quand je me suis assis en 7-0, je me suis dit, allez, c'est bien, voilà, si je perds de toute façon en 4-7, on va dire que j'ai fait un bon match. Et puis, je m'assieds à 2-7-0 pour moi. Je dis, voilà, si jamais je perds en 5-7, on va dire que j'ai fait un match de titan, quoi. Et puis, quand je me suis assis à 5-4, je me suis dit, bon, là, tu n'es quand même pas si loin. Et le premier point à 5-4, je sers et je fais un point de fou, un point parfait, je monte au filet et je prends passing en bout de course, long de ligne, gagnant. Et je me dis, c'est pas vrai, le mec va encore s'en sortir, c'est sûr, il va encore me la faire à l'envers. Et c'est seulement à 45 où là, je me suis dit, bon, là, ça y est, c'est bon, là, elle est pour moi, quoi. Mais avant ça, honnêtement, j'y croyais pas trop.
Et tu sors un match de mutant, tu sens qu'il n'est pas dans un grand jour. Enfin, c'est quoi le sentiment final de ta victoire?
Les deux premiers sets, ouais, c'était un match de titan. Franchement, j'étais agressif, je montais au filet, je tentais ma chance à fond parce que je savais bien que si je poussais derrière la ligne de fond, j'allais avoir aucune chance.
Ouais.
Et après, début du troisième, quand je l'ai breaké, j'ai vu qu'il avait un peu mal au genou, qu'il y avait certaines balles, il y allait peut-être pas autant qu'au début. Et donc, là, je me suis dit que j'avais vraiment une grande chance. Mais forcément, tu bats pas Nadal dans un grand chelem si t'es pas dans un jour de grâce et si lui n'est pas dans un jour un peu moins bon. C'est logique, tout était réuni là pour que ça se passe bien.
Et derrière, dans les médias, t'as senti un coup de boost, t'as senti quelque chose de différent?
Forcément, dans les médias, on dit que t'as créé l'exploit de l'année, t'as battu Nadal, tchic-tchac, tous les plateaux de TV, les journalistes qui sont là. Le seul truc, c'est que j'étais tombé pendant le match et que je m'étais fait vraiment très très mal à l'épaule. Et donc, pendant toutes les interviews, je sentais que mon épaule, je m'étais pété un truc et je ne savais plus du tout lever le bras. Et donc, le lendemain, forcément, t'as ton entraînement, mais comme tu viens de battre Nadal, on te met sur le premier terrain. Tous les journalistes t'attendent pour te poser des questions. Et moi, je n'ai pas pu aller m'entraîner parce que je ne savais plus lever mon bras. Et donc, j'ai même pas joué mon deuxième tour parce que j'avais une déchirure du sous-épineux à l'épaule, donc j'ai arrêté pendant 9 mois après, quoi.
Oh, ah ouais, 9 mois.
Alors que j'avais un tableau, un tableau pour faire quart de finale, quoi.
Ouais.
Et pour jouer Kubot, pour jouer Benoît Paire, pour jouer Manarino, tous des mecs que j'ai déjà battus, tous des mecs que je connais, tous des mecs qui sont pas injouables. Et donc, pour jouer Janovic en quart, donc c'était un tableau qui s'était vraiment fortement ouvert, quoi. Malheureusement, on ne saura jamais, mais c'est Kubot qui aura fait quart, quoi.
Quand tu dis que tu as pris ton tableau dans la maison à Wimbledon, quand tu vas à Wim, tous les joueurs quasiment louent des baraques. Ça coûte une fortune de louer une maison là-bas ou comment ça se passe?
Ouais, moi, je n'ai jamais loué une baraque. J'ai toujours loué une partie de la maison de personnes, donc des gens qui habitaient là, ils avaient un étage, donc avec il y avait salle de bain, deux chambres, une salle de jeu, et j'ai toujours dormi chez eux depuis des années.
Ouais.
Et donc j'allais avec mon entraîneur dans la maison et on avait chacun notre chambre et c'était vraiment chouette. C'était dans le village de Wimbledon, on était à côté de tout et à l'époque on avait découvert cette maison là avec Olivier Rocus et depuis je suis toujours resté là-bas.
Et c'est l'organisation du tournoi qui met à disposition
Ouais, l'organisation du tournoi fait ça, mais nous, on avait trouvé ça un peu par chance, et donc on allait directement voir avec eux, quoi.
Ok. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un tournoi? Que ce soit à cause du matos, du voyage, du restaurant, de ce que tu veux, vraiment une galère de l'espace, quoi.
Mais j'ai eu une année, je fais le Challenger de Nouméa, premier tournoi de l'année. Donc je pars, j'arrive, je reçois ma valise, mais je reçois pas mes raquettes. Et donc, j'arrive bien à l'avance parce que c'est loin. Et jusqu'à la veille de mon match, j'ai pas de raquettes, donc je dois jouer avec la raquette de Stéphane Robert, de Mathias Bourg, de Manarino, des Babola, des Wilson, enfin. Et j'en touche pas une, quoi, parce que voilà, c'est tellement spécifique une raquette, j'arrive pas à trouver une raquette qui ressemble à la mienne. Et j'essaye de repousser le jour de mon match, donc j'essaye de dire voilà, j'ai pas mes raquettes, il faut pas que je joue lundi, il faut que je joue au minimum mardi, et si possible le soir. Enfin, Et le gars me dit, voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Au final, je reçois mes raquettes lundi soir et j'arrive juste à faire mon échauffement le matin avec ma raquette. Et puis après, je gagne le tournoi. Donc, c'était assez marrant parce que je pars d'une situation qui est complètement catastrophique à gagner le tournoi une semaine après. Donc, c'est rigolo.
Ton plus gros pétage de plomb sur un court, à part contre la mer de Murray.
Mon plus gros pétage de plomb, c'est une fois, c'est juste en dehors du terrain en fait. C'est pas vraiment sur le terrain, ouais. Des raquettes, j'en ai déjà cassé, c'est sûr. J'ai déjà pris des amendes, c'est sûr. Mais un jour, on est en Coupe Davis, on joue l'Ukraine, je perds mon match et je tape dans le mur, mais c'est en fait une plaque de J-Proc, donc je fais un trou et je vais voir le responsable de la salle et je lui dis, voilà, écoute, j'ai fait ça, dis-moi combien je te dois pour la réparation, je te paierai. Donc vraiment honnête, quoi. Donc je paye le gars, je lui donne 250€ pour un trou dans une plaque de J-Proc, mais bon, bref. Et donc à la fin de la rencontre, j'ai le capitaine belge qui m'appelle, il me dit, voilà, tu dois venir voir le superviseur parce que voilà, le trou que t'as fait. Je dis, ok, d'accord. Donc moi j'arrive et ça faisait une demi-heure qu'il essayait de négocier parce que le superviseur voulait me mettre une amende et tout ça. Et donc le superviseur me dit, voilà, la fédé ukrainienne a porté plainte, ils t'ont vu. Je dis, non, c'est faux, tu mens. Je dis, j'ai été payé, le gars qui s'occupe de la salle, il a dit aucun problème, je me suis excusé, il n'y a pas de caméra, personne m'a vu, c'est faux, tu mens. Il a dit, non, non, ce sera comme ça, donc tu vas prendre 1 500€ d'amende. Et là, il me donne la feuille et je prends la feuille et je la déchire en 1 000 morceaux et je la jette en l'air et puis je pars, quoi. Et puis le capitaine revient dans le vestiaire, il dit, putain, t'es con. Et il était mort de rire, quoi. Et au final, j'ai jamais eu l'amende.
Incroyable. Et ta plus grosse amende, elle était de combien?
Je crois que ça doit être 1 500€ à Roland-Garros où je me suis assis sur le terrain numéro 1 et j'ai donné un petit coup dans le banc. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, mais il y avait une plaque de sponsor qui couvrait le trou du banc, en fait. Et donc, forcément, j'ai éclaté la plaque, mais je l'avais même pas vue.
Ah ouais.
Et j'ai pris 1 500 $. Bref, mérité, hein. Mais voilà, maintenant tu peux tellement plus rien dire que c'est un peu chiant, quoi.
Ouais. Est-ce que tu as des superstitions un peu étonnantes sur un court de tennis?
Ouais, mais c'est des bêtises. Je veux dire, du côté égalité, en première balle, je lance chaque fois trois fois ma balle par terre. En deuxième balle, je la lance une fois. Et côté impair, je la lance deux fois, première ou deuxième balle. Donc, c'est vraiment c'est des trucs qui sont complètement ridicules, mais que je fais depuis toujours. Donc, c'est devenu une habitude.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec ton expérience du circuit, ta gestion d'un match, tes schémas de jeu sont beaucoup plus travaillés et solides que quand tu es arrivé sur le circuit?
Ouais, c'est sûr que je suis beaucoup plus patient. Mon jeu est beaucoup plus en place, beaucoup plus posé qu'à l'époque, hein, c'est certain. Je pense que c'est pas un hasard si j'ai eu mon meilleur classement en 2017, de toute façon. Donc, en 2008, j'ai été 44e. 2017, j'ai été 38e. Mais j'avais le sentiment que physiquement, j'étais bien meilleur, que tactiquement, j'étais bien meilleur, et que tennistiquement, tout simplement, j'étais bien meilleur aussi.
Est-ce qu'en Coupe Davis, en Belgique, vous avez un bizutage comme en France pour la première sélection?
On n'a pas vraiment de bizutage, mais voilà, on doit tous faire un petit discours comme tous les nouveaux. Donc, au repas officiel, chacun devait faire un petit discours. Et à la fin, au fur et à mesure des années, on essayait de faire placer des mots, dans le discours. Donc, ça devenait un peu rigolo.
Ton souvenir le plus fort en Coupe Davis, ça restera lequel?
Pour moi, ça restera, à mon avis, la demi-finale en 2015, où là, c'était un week-end contre l'Argentine. C'était en fait dans une salle complètement mythique en Belgique. C'était Forêt Nationale. J'avais été voir un spectacle, au début de l'année. C'était Florence Foresti.
Ouais.
Et je m'étais dit, ce serait quand même incroyable si un jour on pouvait jouer dans cette salle, c'est énorme. Et là, on se retrouve quelques mois après dans la même salle. Le vendredi, moi je joue 4 heures, je perds mon match en 4-7. Le samedi, je joue 4h15 en double. On perd le match aussi. Et on termine les soins. Il est 1h30 du matin. Je vais te faire 8h30 de match. Je suis complètement vidé. Et là, on se retrouve à 2-2. Le capitaine me dit, voilà, il faut que tu joues. Mais je dis non, je suis pas capable. J'ai plus de jambes. Je suis éclaté. J'ai pas dormi. Il dit non, on n'a pas le choix. Il faut que tu joues. Et tous les autres me poussaient. Je dis, les gars, si moi, c'est partout, j'ai des crampes, je fais quoi? Je suis ridicule devant tout le monde. Et donc, pour finir, je vais sur le terrain et voilà, on se retrouve vraiment à 7 partout, vraiment très accroché. Et là, je commence à mouiller, je me dis, bordel, c'est sûr, je vais jamais tenir, je suis rôti, ça va pas. Et pour finir, voilà, je m'en sors en 4-7, en jouant très très bien et en gagnant le match décisif. Donc, ça restera magique. Maintenant, après ça, j'étais tellement mort que j'ai plus gagné le match de l'année, donc c'est un peu emmerdant.
Qu'est-ce que tu as appris au contact des joueurs suivants en 2-3 mots à chaque fois, en commençant par les frères Rocus?
Ben, Olivier, j'ai surtout appris la rigueur parce que c'était quelqu'un de très professionnel, qui était super solide, qui lâchait jamais un point, qui lâchait jamais sa proie une fois qu'il l'avait. Donc vraiment, voilà, la rigueur, la solidité, ça, j'ai vraiment beaucoup appris de lui. De Christophe, moi, ce que je retiens surtout, c'est pas vraiment ce que j'ai appris, c'est que quand il était dans le top 100, on s'entraînait souvent ensemble. Et à l'entraînement, je lui mettais chaque fois des tôles, des raclés. À chaque fois, je gagnais et je me disais, c'est pas possible, le mec, comment est-ce qu'il fait? Il est top 100, moi, je suis nulle part et je l'éclate à chaque fois. Donc, c'est vraiment un mec qui m'a fait me dire que c'était faisable, quoi.
Ouais.
Et pourtant, c'était un joueur incroyable. Je veux dire, il a été 35e mondial et c'est ce qu'il a fait, c'est exceptionnel, il a battu les meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, lui m'a fait me dire réellement que c'était possible.
Xavier Malisse?
Bah, Xavier Malisse, je ne l'ai pas côtoyé beaucoup, mais voilà, je pense que c'est le plus gros talent que la Belgique ait eu.
David Goffin?
Dave, j'ai pas vraiment appris grand chose parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, donc je le connais depuis très longtemps, depuis qu'il est tout petit aussi. Mais c'est surtout voilà, que personne ne s'attendait à la carrière qu'il a faite parce qu'en jeune, il n'était pas très bon, il était frêle. Il avait probablement des meilleurs timings de l'histoire, c'est sûr, mais voilà, il n'était pas hyper fort étant jeune. Et puis d'un coup, je sais pas, il a eu un déclic et d'un coup, il a commencé à tout gagner. Il a enchaîné je sais pas combien de victoires là. Et voilà, c'est surtout la progression qu'il a eue en si peu de temps.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Qui est vraiment hallucinant.
Et Christophe Ligan?
Et Fly, voilà, talent énorme, une main de dingue, qui pouvait péter les plombs à tout moment, mais qui était au final, mentalement, quand il avait envie, était vraiment une machine, quoi. Et il avait peur de personne, c'est surtout ça. Il avait peur de personne et il savait qu'il pouvait battre tout le monde sur un match. Et voilà, c'est surtout peut-être la confiance en lui.
Je me souviens d'une rousse qu'il avait mis à Gasquet sur le central de Roland. Comment ça se fait qu'il ait arrêté aussi rapidement?
Ouais, il a eu des gros soucis physiques, je ne sais pas exactement quoi, mais problème de dos, d'épaule. Et donc malheureusement, oui, il n'a pas pu continuer. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il était en route, c'était vraiment impressionnant.
Ton meilleur pote sur le circuit, c'est qui?
Moi, je m'entends très bien, bah, surtout voilà, avec les joueurs français, avec Mickaël Audra, avec Mahu, avec Benoît Paire aussi. On a joué quelques fois en double ensemble, avec Doudi Sella.
Ouais, Israélien.
Voilà, c'est un peu Marc Jiquel, voilà, tous des mecs de mon époque, quoi.
J'avais une question d'ailleurs relative à concernant Mickaël Audra. Ça t'a pas fait bizarre qu'il soit votre conseiller de double pour la finale de la Coupe Davis? Lui qui venait un peu du camp adverse, quoi.
Ouais, mais c'était contre l'Angleterre, donc c'était différent. Maintenant, c'était un choix qu'on a fait parce que on savait qu'on avait besoin de ce poids-là, on avait besoin du poids du double. On savait qu'on n'avait pas, même si voilà, on avait Olivier Rocus qui avait gagné Roland, c'était pas un spécialiste de double comme Mika. Mika avait vécu des finales de Coupe Davis, Mika avait vécu, avait gagné des grands chelems, des finales de grands chelems, il avait une expérience du double exceptionnelle. Et il nous a vraiment beaucoup aidé, on a vraiment beaucoup appris, et donc je trouvais ça vraiment bien d'avoir fait appel à lui.
Est-ce que tu as des anecdotes sympas à raconter en dehors du cours avec Roger, Rafa ou Djoko?
Non, peut-être la seule que je pourrais dire avec Roger et Rafa, c'est un jour, on est au JO de Pékin et il a plu, donc on a terminé les matchs très très tard et il est 23h30 et on est chez le kiné avec Olivier et Julien Forlin qui était notre entraîneur, et je sais pas par comment ça arrive, mais Rog et Rafa qui arrivent là dans le vestiaire chez les kinés, donc on se retrouve à 5 là chez les kinés tout seul à quasiment minuit et voilà, on a fait une photo tous ensemble et c'est un souvenir que je retiendrai parce que ça n'arrive, voilà, ça n'arrive jamais que de te retrouver juste à 4-5 dans un vestiaire à l'autre bout du monde à minuit, quoi.
La meilleure main sur le circuit selon toi?
Ouais, je dirais Benoît Père.
Le malade mental de l'entraînement physique, Benoît Père aussi.
Ça non, malheureusement, il m'en voudra pas. Non, à mon avis, je dirais peut-être un Dominic Thiem.
Le joueur le plus fou.
Peut-être Kyrgios.
La plus belle rencontre que tu as faite sur le circuit.
En tant que...
Tout confondu, joueur, coach, cuisinier.
Sur le circuit, je vais réfléchir 2 minutes.
Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu as été particulièrement injouable?
Ouais, c'est un match qui n'est pas très, très. Enfin, si, c'était important. On était en Coupe Davis, on était à 2-2 aussi contre l'Ukraine.
Ah ouais, bah quand même.
C'est important. Ouais, et je joue Sergei Bouka, qui était, voilà, qui était à ce moment-là, il devait peut-être être, je sais pas moi, 180, 200. Il avait fait un super double la veille et il le met à 2-2. Et là, je l'ai éclaté, j'ai pas raté une balle. Je crois que j'ai mis 3 fois 6-1, mais un truc, j'ai pas raté une balle. Et là, je me suis dit, j'ai jamais vu ça de ma vie et j'ai jamais joué comme ça de ma vie, quoi.
Et tu sais pourquoi c'est arrivé à ce moment-là?
Non, je pense qu'on ne le sait jamais vraiment, hein, quand ça arrive. Je crois que quand les planètes sont toutes alignées, ça arrive, mais ça arrive tellement rarement que tu n'oublies pas vraiment.
Ta pire défaite?
Ma pire défaite, ouais, ça restera, je pense qu'on pouille en Coupe Davis, où je pense que c'est le match, le week-end en tout cas, qui m'a complètement brisé, quoi.
Ah merde. En plus, ce qui est horrible, c'est que tu souffres comme pas possible du coude à ce moment-là.
Ouais, on me faisait des injections à chaque fois avant de jouer, donc en fait, je sentais plus trop mon coude, mais alors je sentais plus trop ma main non plus, donc j'avais du mal à changer de prise et tout ça, et j'étais pas entraîné, mais à l'entraînement, je gagnais contre tout le monde, donc on était quasiment obligé de me mettre. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas dû me mettre en sable, me mettre en double? Ouais, voilà, c'est une question qu'on... Mais le double, on aurait pu le gagner comme ça, donc au final, je pense qu'on a mis la meilleure équipe au moment où on devait la mettre, mais j'étais pas, voilà, j'avais plus joué depuis un mois et demi, j'étais pas prêt, j'étais pas entraîné, j'avais pas de sensation, et voilà, j'ai merdé mes 2 matchs. J'avais la pression, je l'ai pas géré, et voilà, je me suis planté clairement. Donc ça a été dur.
Et pour la suite, niveau confiance, comment t'as géré?
Ouais, j'ai mis du temps à me remettre. Honnêtement, j'ai vraiment été vraiment brisé. J'ai vraiment mis du temps. J'étais dans le trou. J'avais pas du tout le moral parce que voilà, la deuxième finale, ça fait mal, quoi. Surtout que t'avais un mec comme Daf qui avait joué le meilleur tennis de toute sa vie, je pense. Donc, on a eu nos chances, mais voilà, je sais que peut-être que le double, on aurait pu le gagner aussi, que ça aurait été une autre histoire, Mais là, moi, j'ai pris sur moi, voilà, c'est moi qui ai merdé et j'ai eu du mal à m'en remettre, c'est sûr.
Qu'est-ce que tu aimerais encore accomplir aujourd'hui sportivement? Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Ben là, maintenant, j'entraîne des jeunes à la fédération. Là, j'entraîne les plus de 18 ans. Donc, voilà, j'aimerais arriver à leur transmettre un petit peu mon expérience, à leur transmettre ce que j'ai vécu. Et si j'arrive à faire ça, je pense que j'aurais réussi mon coup.
Ah, t'as totalement tiré un trait sur le circuit?
Ben, j'ai arrêté parce que mon coude, ça n'allait pas. Maintenant, forcément, avec le confinement, avec le fait que plus personne ne joue, que moi, je joue plus non plus, ben, mon coude, évidemment, va beaucoup mieux. Mais voilà, je suis vidé mentalement, physiquement, de devoir faire les efforts, de devoir revenir. Donc, ouais, là, je n'ai pas prévu de rejouer. Je travaille à la fédération, j'ai un poste super sympa. On me fait confiance, et pour l'instant ça se passe bien. Malheureusement, on a été stoppé assez vite avec ce virus et on prend son mal en patience.
Ouais. Juste pour revenir 5 minutes sur le circuit, est-ce que tu avais une bête noire?
Ouais, j'en avais plusieurs. Hein. Je pense qu'on dit après 3 fois que ça devient notre pigeon. Donc moi, j'ai perdu 3-4 fois contre Almagro, 3-4 fois contre Verdasco. Voilà, mis à part ça, c'est probablement les mecs que j'ai joué le plus. Mais voilà, à part eux, j'ai souvent quand même réussi quand même à gagner une fois ou l'autre.
Et dans le sens inverse, quel joueur t'as le plus martyrisé?
Il y a un joueur qui n'est pas très connu, mais qui a été 150e mondial, je crois. Et c'est dur à dire, mais c'est probablement le seul joueur sur le circuit où je me suis dit, là, c'est impossible que je perde. Et ça doit être vraiment le seul, parce que mon jeu, simplement, ne lui convenait pas du tout, du tout, du tout. Et c'était Samper Montana, un Espagnol, ben voilà, qui n'est pas très connu, qui n'a pas fait une carrière exceptionnelle, mais c'est le seul joueur où je me suis dit, ben là, c'est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit.
Le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement?
Stepanek.
Ta plus belle remontada?
Ma plus belle remontada, c'était, ouais, ça c'était assez exceptionnel, c'était à Chennai, au Grand Prix de Chennai, donc premier tournoi de l'année, je joue Kafkic, qui était 60, 70, en Slovène.
Ouais.
Et je suis mené 1-7, 5-2, double break, enfin, pas de match, je suis nul à chier. Et puis je me dis, allez, maintenant je rate plus une balle, je pousse tout au milieu, tant pis, je cours. Et puis 5-3, 5-4, 5-5, je grappille. Et puis au final, je gagne en 3-7 le jour du nouvel an, parce qu'on était le 31. Et donc là, je me suis dit, le mec, le pauvre, j'ai pensé à lui, parce que je me dis, là, sa saison, elle a même pas encore commencé, qu'elle est déjà finie, quoi.
Chaud. Est-ce que tu étais du genre à faire de la prépa mentale avec un coach?
J'ai tenté pas mal de choses. J'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose, j'ai tenté pas mal de choses. Ça m'a pas trop aidé. La seule chose qui m'a un peu aidé pendant mes périodes de grosses blessures, c'était un peu la visualisation où voilà, tu te vois faire des coups, tu te vois jouer, tu te vois faire des coups gagnants, et ça m'a quand même pas mal aidé parce que voilà, quand je reprenais la raquette, j'avais l'impression de pas vraiment m'être arrêté en fait. Et okay. C'est peut-être probablement la seule chose qui m'a bien aidé dans la prépa mentale.
Et tu devais être guidé par quelqu'un pour la visualisation ou tu arrivais à le faire tout seul?
Non, j'étais avec un gars qui est sophrologue, kiné, qui m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à ça. Et donc, on le faisait ensemble.
Est-ce que tu saurais dire le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné? Chaud.
Ouais, c'est chaud parce que voilà, il y en a tellement. Je pense que il y a des bons entraîneurs, il y a des bons coachs, c'est vraiment pas pareil. Et les bons coachs, voilà, quand ils sont au bord du terrain, ils vont toujours te trouver le bon mot au bon moment. Alors, je vais pas savoir en sortir un du lot, mais pour moi, c'est ça, le bon coach, il va arriver au moment où tu en as besoin, à te sortir peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être un bête encouragement qui paraît anodin, mais qui à ce moment-là est tellement important. Et voilà, moi, j'ai eu des très grands coachs à mes côtés. J'ai eu de très grands entraîneurs, mais qui étaient des mauvais coachs. Et donc, voilà, Le bon coach, pour moi, c'est ça, mais sortir un conseil du lot, c'est trop difficile.
Si tu avais un jeune de 12 ans devant toi qui rêve d'être top 100, tu lui dirais quoi ?
Il faut que tu te bouges le cul, mon gars. Non, mais c'est voilà, on a tous le rêve d'être bon, d'être dans les 100, mais sans savoir ce que ça veut dire, sans savoir ce que ça implique. Et là, moi, je vois tous les jeunes maintenant, à l'heure actuelle, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il faut fournir. Et je pense que c'est des gars comme nous qui doivent les guider, qui doivent les encourager, mais qui doivent leur faire comprendre que le chemin est long.
Ta plus grosse fiesta sur le circuit, Steve ?
Sur le circuit, on en a fait des très belles en Coupe Davis.
Ouais.
Gagné ou perdu, peu importe, on en a fait de belles. Et sur le circuit, ouais, j'en ai déjà fait, mais j'en ai déjà fait pas mal, mais pour en sortir une. Non, la dernière que j'ai faite, c'est mal passé. C'est que j'ai pas su me réveiller et j'ai raté mon avion. Et c'était en Coupe Davis à Madrid, quoi. Donc,
ah, c'est moche.
C'était pas si longtemps.
Ah, d'accord. Le cours d'entraînement le plus improbable sur lequel tu as pu t'entraîner, un cours au milieu de la jungle ou entre deux montagnes ou au bord de l'océan, un truc incroyable.
Il y a des endroits magnifiques, hein. Voilà, si tu prends Nouméa, c'est magnifique au bord de la mer. Si tu prends Clusters, c'est les championnats d'Europe en junior, t'es au milieu des montagnes. Si tu prends Indian Wells, voilà, t'es en plein milieu des montagnes, dans le désert, c'est fabuleux. Voilà, il y a pas mal d'endroits qui sont magiques où on a la chance de jouer. Donc, on est quand même des privilégiés malgré tout.
Comment est-ce que tu as géré le fait d'être papa et de partir plusieurs semaines sur le circuit ?
C'était pas toujours facile. Maintenant, voilà, j'étais pas tout seul, donc mon ex-compagne s'occupait vraiment bien des filles quand j'étais pas là. Après, voilà, maintenant qu'on est séparés, ben on essaye de trouver un peu un rythme qui a forcément changé, mais voilà, à partir du moment où les filles sont bien, où les filles sont heureuses, que voilà, je pense qu'il y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident.
T'as réussi à voyager un petit peu avec tes filles sur le tour ou pas du tout?
Non, très peu. Elles ont fait très peu de tournants avec moi. En tout cas, la toute petite n'en a jamais fait. La plus grande, elle en a fait très très peu. Voilà, elle va avoir 7 ans. La petite, elle va avoir 3 ans. Donc, elles ont vraiment très peu voyagé parce que voilà, je voulais pas qu'elles voyagent parce que c'est contraignant, parce que c'est compliqué, parce que voilà, moi je sais pas me concentrer quand elles sont là. Voilà, c'est assez compliqué. Ceux qui arrivent à le faire, chapeau. Moi personnellement, j'avais du mal. Donc elles ont pas beaucoup voyagé. Voilà.
Tu trouves que Roger c'est un monstre là-dessus ?
Non, forcément non, parce que c'est trop facile. Je veux dire, quand t'as deux nounous, t'as ta femme, je veux dire, c'est pas compliqué. Je pense qu'il voit ses enfants de temps en temps, mais il doit pas s'en occuper comme moi j'aurais pu le faire. Donc c'est un autre monde, c'est une autre manière de fonctionner. Les enfants, ils ont l'habitude d'être tout le temps avec des nounous, tout le temps avec des personnes qui s'occupent d'eux, donc c'est complètement différent.
Ouais. T'as gagné 3 445 786 dollars brut. Enfin, quel regard tu portes sur ce montant ?
Ouais, c'est brut. C'est vrai que c'est un montant qui est énorme, mais voilà, en 17 ans de carrière, quand tu retires tes blessures, les mois où tu n'as rien gagné, quand tu retires tes voyages, tes coachs, tes préparateurs physiques, voilà, tous tes frais, peu importe quels qu'ils soient, mais forcément, voilà, c'est compliqué parce que tu es aussi taxé, tu es aussi, tu as des impôts, voilà, en Belgique, on est quand même beaucoup taxé. Donc voilà, c'est vrai que c'est énorme, mais au final, je ne me dis pas, ouais, voilà, je peux arrêter de travailler. Donc maintenant, je me dis juste, voilà, si j'avais pu faire la même carrière de 17 ans en commençant il y a 4-5 ans, ouais, forcément, là, ça aurait été complètement différent. Mais je suis très content de ce que j'ai fait. Voilà, quand tu commences, tu ne penses pas spécialement à l'argent. C'est sûr que Personnellement, il faut être franc, hein, moi je me suis accroché au tennis parce que je sais, je gagnais très bien ma vie et c'est pour ça que j'ai voulu revenir, parce que je voyais que les prize money augmentaient, parce que tout augmentait, parce que la vie coûte cher. Donc bien sûr que à la fin tu joues aussi pour l'argent, on peut pas se cacher derrière ça, mais je ne me dis pas ouais, j'ai gagné autant, j'essaie juste de continuer à vivre normalement. Je vais travailler normalement, je vais continuer de faire mes trucs, mais je suis content de ce que j'ai fait, voilà, simplement.
Comme l'argent, évidemment, a une importance, tu ne te dis pas que tu pourrais tirer une, deux ou trois saisons en double uniquement, comme tu as une bonne main et tu pourrais peut-être le faire?
Ouais, honnêtement, je pense que j'avais les capacités de le faire. Maintenant, ça veut dire que là, je n'ai pas de classement double, je dois recommencer à zéro. Je dois recommencer des futurs, des challenges. C'est trop long. Voilà, pour perdre de l'argent pendant un an, voire plus, parce que c'est pas dit non plus que je vais arriver tout de suite à remonter en fonction du partenaire, de Chick, de Tchak. Et puis, j'ai pas envie de voyager juste pour faire du double. Je préfère me consacrer à autre chose, sans dénigrer le double, hein, parce que voilà, il y a des joueurs exceptionnels. Ça n'a rien à voir. C'est que moi, je me sens pas capable de le faire.
Ta structure faisait partie de la Fédé ou tu avais une structure privée d'entraînement?
En fait, j'ai été toujours aidé par la Fédé. Maintenant, j'ai eu des entraîneurs privés, j'ai eu des entraîneurs fédéraux. Mais sur les 10 dernières années, j'ai eu des entraîneurs. Les 7-8 dernières années, j'ai eu des entraîneurs privés. Et avant, j'étais à la Fédé. Donc, j'ai toujours été aidé par la Fédé. Mais après, je suis passé dans le privé. Voilà,
Combien te coûtait une saison en moyenne dans le privé?
C'est dur de dire. Faudrait vraiment que je faisais pas vraiment mes calculs comme ça, mais si tu dois payer, voilà, ton entraîneur, si tu comptes les voyages ou pas de voyages ou.
Ouais, vraiment l'intégralité de la saison, ouais, globalement.
Bah, à mon avis, tu dois être à 100 000 euros, quoi.
Yes.
Plus ou moins, quoi.
Quelle est la plus grosse folie financière que t'as faite pendant tes années sur le circuit?
Alors. Je me suis toujours fixé des objectifs en termes de me faire un cadeau de temps en temps quand j'arrivais à réaliser mon objectif. Donc, à chaque fois que j'arrivais à atteindre un objectif, j'achetais une montre parce que j'adore les montres.
Ok.
Donc, je m'étais dit, voilà, si je reviens dans les 100 après ma grosse blessure, je m'achète une montre. Si j'arrive à être dans les 40, je m'achète une montre. Et voilà, j'essayais de me mettre des petits challenges comme ça. Donc voilà, c'était des folies, mais des folies contrôlées quand même.
Ta plus belle montre, c'est laquelle?
J'ai une Rolex Daytona blanche.
C'est bon ça. Ok, si on se refait un Skype dans 4-5 ans, quelle est ton intuition sur l'évolution du format de jeu dans le tennis?
J'espère qu'il n'aura pas changé.
Ok.
J'espère qu'il n'aura pas changé, ouais.
Comment tu gères tes réseaux sociaux et combien de temps tu y passes par jour?
Je suis pas quelqu'un qui met des trucs toutes les deux minutes. J'aime bien regarder en fait ce que les gens mettent. J'aime bien regarder, enfin voir les stories, voir un peu sur Facebook ce que les gens partagent. Mais moi, mettre des trucs, je suis pas un grand fan. Alors je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais moi personnellement, je préfère regarder ce que les gens mettent que moi de partager beaucoup de choses. Je pense que j'aurais dû, voilà, si j'avais voulu être un peu plus populaire, j'aurais dû partager plus de choses pour que les gens, voilà, se s'identifient ou voilà, regardent ou mais je suis un peu trop discret par rapport à ça, donc j'aime pas trop. Et je regarde souvent, hein, mon téléphone pour voir un peu ce que les gens mettent, mais je passe pas ma vie dessus non plus, quoi.
Ta notoriété, elle est comment en Belgique? À chaque fois que tu sors de chez toi, on te reconnaît ou pas forcément?
Non, pas à chaque fois. C'est marrant, il y a des régions où tu es plus reconnu que d'autres. Il y a des moments, forcément, quand tu fais un bon match, quand on reparle de toi un peu à la télé, dans le journal, ben forcément, on te reconnaît un peu plus souvent. Mais honnêtement, je suis quand même assez tranquille parce que j'ai pas non plus été... médiatisé comme un David, comme une Justine, loin de là. Donc honnêtement, oui, je suis reconnu, les gens sont gentils, mais c'est pas non plus
un fou. Folie. Est-ce qu'il y a une période de ta carrière où tu as pris le boulard?
Non, ça par contre, euh, ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera jamais. Et je pense que si un jour ça m'arrivait, je prendrais des claques de tous mes proches.
Donc, là, je vois que tu es avec Artengo comme sponsor. Ton tout premier sponsor et ta toute première dotation, tu t'en souviens?
Mon premier sponsor vêtement, c'était Bona. C'était une marque belge qui m'a donné des vêtements. C'était une dame de ma ville qui avait fait ça. Donc, c'était voilà, les premiers vêtements que j'ai reçus. Et mes premières raquettes, c'était Donné.
Ok. Quand tu as reçu les tout premiers vêtements,
bah, voilà, tu es content quand tu sais que tu dois pas acheter des vêtements, que tu dois pas acheter des raquettes. Tu reçois, voilà, bah, avec Donné, j'avais reçu vraiment beaucoup de raquettes pour mon âge. Je t'ai dit, ça y est, je suis arrivé, mais j'avais 10 ans, quoi. Donc, voilà, c'était marrant.
Est-ce que tu as une petite routine de sport encore là pour rester fit pendant le confinement?
Bah, j'ai acheté un spinning là, le spinning du Tour de France là, avec les parcours, et je fais entre une heure et une heure et demie 6 fois par semaine.
Ah quand même, ah ouais, t'es chaud.
Bah, il faut que je reste un peu en forme, j'ai pas envie de voilà, il y a quand même tu bois forcément un peu plus parce que t'es confiné, tu manges forcément un peu plus, tu bouges un peu moins, donc genre, j'ai pas envie de me retrouver avec 15 kilos de plus. J'ai envie de rester fit, j'ai envie de continuer à jouer un peu de temps en temps. Donc, ouais, j'essaye de m'y tenir. Et comme mentalement, je suis pas trop mauvais, j'arrive à bien m'y tenir. Donc, c'est bien.
Combien il coûte le home trainer là, du Tour de France?
Je ne sais pas. J'ai eu un accord avec un gars, donc il me l'a prêté pendant le confinement. Et je pense que je lui rendrai après. Mais à mon avis, ça doit être un vélo qui coûte. À mon avis, ça ne doit pas être loin de 10 000. Je pense qu'il est vraiment.
Ah oui, c'est un vélo professionnel, mais surélevé, c'est ça?
Bah, c'est un vélo qui, voilà, quand tu as des côtes, il se lève. Quand tu as des descentes, il descend. Tu as les courses, tu as un écran, tu peux aller sur Internet. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. C'est impressionnant.
C'est énorme. Ouais, trop bien. Ce qui restera le plus gros regret de ta carrière, c'est quoi?
Ouais, c'est. Je pense que ça restera la Coupe Davis contre la France, où là, je me suis planté complètement. Et peut-être ne pas avoir pu enchaîner après ma victoire contre Nadal. Je pense que c'est les deux choses qui m'ont vraiment fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal.
Et au contraire, ta plus grande fierté?
Ma plus grande fierté, c'est je pense, voilà, c'est d'avoir souvent été enterré par des gens, et puis parce que j'étais blessé, parce que tout le monde disait que c'était fini, et que je suis quand même toujours revenu, je me suis toujours accroché, et je suis quand même toujours revenu dans le top 100, je me suis accroché, et j'ai toujours réussi à revenir là où je pensais que je devais être, donc. Voilà, le fait de m'être accroché, d'avoir réussi à chaque fois, je crois que c'est ça ce dont je suis le plus fier, quoi. D'avoir exploité mon potentiel au maximum, je pense que c'est ça. Ouais.
Ce qui est ouf sur ton plus gros regret, c'est que tu en as un des deux qui tombe après une des victoires les plus belles de ta carrière, où finalement tu es le moins attendu, et derrière, cette plus belle victoire peut te générer le plus gros regret. C'est quand même incroyable, c'est fou comme ça peut être lié, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ce que j'ai déjà dit. C'était un des meilleurs moments de ma vie qui a tourné au drame, quoi, en fait.
Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions qui sont communes à toutes les interviews pour mieux te connaître en tant qu'homme et moins en tant que joueur de tennis. Quelle est ta définition de la richesse?
En termes d'argent, non, pas en termes d'argent, forcément.
Ce que tu veux, ce que tu mets dedans.
Non, la richesse pour moi, c'est d'avoir de ne pas avoir changé, d'avoir toujours mes proches autour de moi et surtout comme je dis, voilà, de ne pas avoir changé, peu importe la réussite, pas la réussite, d'être resté le même, et ça, je pense que je peux vraiment être fier de ça.
Si tu n'avais pas été joueur de tennis, tu penses que tu aurais fait quoi?
Ouais, j'aurais peut-être fait du foot, ou j'aurais peut-être aimé être kinésithérapeute.
Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui à la fin de chaque journée?
Ouais, le fait de me dire que j'ai deux belles petites filles, qu'elles sont en bonne santé, qu'elles sont heureuses, et voilà, je pense que c'est ça qui me rend plus fier.
C'est quoi ta manière à toi d'essayer d'être une meilleure personne, concrètement ?
J'essaie de toujours faire les choses à fond, j'essaie de, voilà, de ne pas avoir de regrets par rapport à ce que je fais, par rapport à mes choix, toujours assumer ce que je fais, et voilà, faire les choses à fond et pas regretter ce que je fais.
Est-ce que tu as une manière de te fixer des objectifs chaque année ?
Ben, en tant que joueur, oui, je me suis toujours fixé des objectifs. Comme je dis, je me mettais un peu des petites carottes pour essayer de me motiver. Ouais. Maintenant, voilà, ici, j'ai commencé, je suis plus joueur de tennis, je suis entraîneur. Forcément, j'ai des envies, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de réussir des choses. Mais là, pour l'instant, je me suis pas encore trop fixé d'objectifs parce que j'ai fait 10 jours de boulot, donc c'était un peu short, mais c'est sûr que je vais m'en fixer, ouais.
Le plat que tu cuisines le mieux?
Il y en a beaucoup, hein. Non, je sais pas, je vais dire spaghetti carbonara.
Allez, un classique. Un livre? Est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie?
Je déteste lire, je ne lis quasiment pas. J'ai lu quelques biographies. Une que j'ai bien aimée, c'était une sur Michel Berger. Et un livre à l'époque qui m'a vraiment beaucoup plu quand j'étais à l'école, c'était Les Fourberies de Scapin.
Ok.
Voilà.
Un film que tu recommandes chaudement?
Ouais, là je vais pas savoir donner le titre vu que c'est un film turc que j'ai regardé la semaine dernière sur Netflix. Ouais. Je sais plus le nom du film, mais je pense que beaucoup de monde l'a déjà vu. Il y a le numéro 7, je crois, dans le titre du film. Et je pense que j'ai jamais pleuré autant de ma vie en regardant un film. Donc j'étais vraiment complètement dévasté après le film. Mais c'est un film magnifique.
On tapera dans Google film turc numéro 7 Netflix. On devrait trouver.
Il y a beaucoup de monde qui l'a déjà vu.
Le concert le plus dingue auquel tu es assisté?
Alors, j'ai quasiment jamais vu de concert de ma vie. Donc, c'est très compliqué. J'ai eu la chance d'aller au concert de Patrick Bruel, que j'adore. Je sais, au niveau musical, il y a un problème. Et j'ai pu le rencontrer après. Donc voilà, c'était pour moi un moment top. Je sortirai celui-là du dos.
C'est bon, ça. Est-ce que tu pratiques la méditation?
Non.
La plus grosse période de doute de ta vie?
Ouais, c'était après mon opération à l'épaule, justement, après mon match contre Nadal. Où là j'étais sur la table d'opération et en fait ça faisait 6 mois je m'en sortais pas, on ne trouvait pas ce que j'avais, j'ai fait des scanners, tout, on ne voyait rien. Et quand le chirurgien a ouvert, il m'a dit ouais, là c'est vraiment la merde. Donc il me dit tu vas probablement plus jamais savoir rejouer. Et là je lui ai dit dis-moi ce que je dois faire si pour avoir une vie normale après, que je joue ou que je joue pas, c'est pas important, je veux juste pouvoir vivre normalement. Et il m'a dit, moi, je vais t'opérer alors. Mais voilà, après. Et donc, il m'a opéré. Ça s'est très mal passé. Je ne récupérais pas du tout. J'avais des douleurs de fou. J'ai dormi assis dans mon canapé pendant un mois. J'étais pas bien. Je dormais pas. Donc, c'était vraiment une période dramatique. Je pense qu'à refaire, je suis pas sûr que je me fais opérer, en fait. Même si je sais toute la carrière que j'ai eue encore après, qui était magnifique, mais j'ai tellement eu mal, tellement eu dur que je ne sais pas si je le referai. Et donc là, c'était une période difficile parce que je me suis dit, je ne m'en sortirai jamais, quoi.
Wow. Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui à ton toi de l'époque, là, qui était un peu dans le trou, dans ton canapé, en train de souffrir? Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui pour te rassurer?
Je me dirais. Que même si c'est dur, même si tu passes par des bas monstrueux, qu'il y a toujours tout s'arrange toujours, en fait. Et c'est ce que je me dis, c'est que tout s'arrange toujours dans peu importe quelle situation. même si tu as l'impression que tu es au plus mal, même si tout se passe mal, il y a toujours un moment où les choses s'arrangent. Et voilà, c'est mon ancien entraîneur qui est décédé maintenant qui m'avait dit ça. Et il avait raison, c'est que en fait, tout s'arrange toujours.
Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ?
Tout s'arrange toujours.
Yes. Alors là, c'est une question très importante, Steve. Je vais te demander toute ta concentration. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast avec laquelle on pourrait parler tennis et que tu trouves intéressante et surtout que tu pourrais nous aider à avoir ?
Moi, je dirais peut-être un Mikael Audra qui lui est dans plein de domaines et qui est vraiment intéressant. Je pense que c'est très intéressant à qui parler. Parce qu'il n'a pas que le tennis dans la vie et je pense que ça, c'est pas mal. Et sinon, ouais, dans mes compatriotes, peut-être un David Goffin, peut-être un Christophe Ligon. Christophe Ligon, je pense qu'il pourrait être pas mal.
Il parle français ?
Il parle français, ouais.
Ah, trop bien. Il me reste une question. J'ai vu que tu étais fan de la pêche. Est-ce que tu as un conseil en particulier pour apprendre à pêcher ?
Ouais, je pense qu'il faut pas commencer tout seul. Je pense qu'il faut aller avec quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui connaît un peu ce milieu-là et beaucoup écouter, beaucoup observer. Et observer, écouter les personnes qui ont d'expérience, je pense que c'est primordial pour être un bon pêcheur.
On cherchera les rivières en Belgique pour te retrouver, du coup.
Je vais te mettre un petit peu parce que là... C'est compliqué.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps.
Avec plaisir.
Merci.
Allez.
À bientôt.
Si, ciao, ciao.
Ciao.
Merci Steve pour ce moment. Si l'épisode t'a plu, envoie-lui un message sympa sur Insta pour le remercier. Tu peux aussi faire une story Instagram en nous taguant. En taguant donc Tennis Légende, Steve Darcy et moi-même, Max Zamora _ TL. Ça nous aide à faire connaître notre contenu. Pense au nouveau format dans les yeux 2. À découvrir sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast. Les deux premiers épisodes sont avec Hugo Grenier, puis Benoît Paire. Le troisième épisode est donc avec Steve Darcy. Tu vas te régaler maintenant que tu le connais mieux. Viens aussi me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire ou avec un avis sur Apple Podcast. Je me régale de te lire chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais. Tu peux aussi le faire sur Spotify dorénavant. Et enfin, pense au bouche à oreille, notre arme fatale, pour m'aider à faire grandir ce projet de podcast. Envoie l'épisode à tous tes potes de club et abonne-les sur les plateformes, comme ça je suis tranquille, ils finiront par l'écouter. C'est ce qui marche le mieux pour faire grandir la communauté d'auditeurs et c'est hyper important pour inscrire le projet dans la durée, pour avoir des invités qui te font kiffer et pour nous donner un coup de pouce supplémentaire. Merci à Cédric qui nous a écrit le dernier commentaire sur Apple Podcast. Cédric nous écrit un de plus, il rentre dans mon top 5 direct, celui-ci est une pépite. L'épisode donc avec Bob Sinclair, encore un épisode de Petits Oignons, merci Max et Bob. Et ben merci à toi Cédric. Tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3€ par mois ou plus si le cœur t'en dit. Je suis à temps plein sur le projet de podcast qui me tient à cœur et c'est un moyen de pouvoir en vivre. Il y a les masterclass qui y contribuent, mais si ta carrière est derrière toi et que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde et par avance un immense merci. Vous êtes 30 légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant et si tu ne l'as pas encore fait, mais que chaque semaine tu y penses, fonce, parce que vraiment je le redis, ça fait une diff énorme pour continuer ce projet. T'as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode ou en tapant Tennis Légende Podcast Tipeee, T-I-P, puis 3-E dans Google. Enfin, notre 10e masterclass avec le retour de notre préparateur physique préféré, Ralph Bogossian, qui coach, entre autres, Ben Bonzi aux portes du top 50 mondial est disponible. T'as accès à un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. C'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire spécifique au tennis. Tu peux l'emmener partout, c'est une véritable salle de muscu portative et express. Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono dans mon salon ou de ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et de résultats obtenus. Le TRX permet un travail de poids du corps qui permet d'éviter les faux mouvements et de se blesser en bossant toutes les chaînes de muscles du corps, en les gainant, c'est juste incroyable. Paul Quétin, qui est préparateur physique historique de la Fédé, nous l'avait dit lors de son épisode, pas besoin de jouer les apprentis sorciers, adieu les blessures pour un maximum d'efficacité, vraiment, c'est tout bénef. Avec au moins 2 fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs, c'est rien et ça marche. Ça fait plus d'1 an que je suis dessus, je me sens personnellement beaucoup plus tonique. Il peut être utilisé assez jeune, dès l'âge de 13 ans, c'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeune pouce pour lui permettre de claquer des bonnes premières si vous êtes parent de joueur. Et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, ça vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servir sur un plateau. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la 10e et les 9 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max@tennislegende.fr. À noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie. Avec une simple demande par mail, tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser et t'envoler au classement. Si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn aussi, à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta, à Max_Zamora_TL. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être encore là les légendes, vous êtes vraiment au top du top. Merci pour les bonnes ondes. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.